Vous écoutez
RMC. RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h32, Daniel Riolo est là, Kevin Diaz est là. Le Dynamo Zagreb vient de marquer, les gars, 2 minutes de la fin de la prolongation, donc 3-1 pour eux, face à Bodø/Glimt. Ils sont donc bien partis pour participer à la phase de poule de la Ligue des Champions. Je vous confirme le score définitif dès que c'est terminé. Luc Briand nous rejoint, bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'être dans l'after.
Merci à vous.
Pour un bouquin qui s'appelle Le Brassard, sous-titre Alexandre Villaplane, capitaine des Bleus et officier nazi. Alors ça sort après-demain, hein, c'est aux éditions Plein Jour. Et c'est une histoire qui est complètement dingue, qui évidemment entremêle politique, faits historiques et football. Donc de ce joueur Alexandre Villaplane, évidemment je me suis plongé là-dedans. Je ne sais même pas par où démarrer. Peut-être par le début de sa vie, avant qu'on se rende compte du salaud qu'il a été. Racontez comment il est devenu footballeur et capitaine de l'équipe de France d'abord.
Oui, alors Alexandre Villaplane, c'est un gamin de Bellecour, hein, le quartier populaire d'Alger. Il vient d'un milieu modeste, son père est foudrier, c'est-à-dire qu'il fabrique des tonneaux pour les grandes propriétés viticoles d'Algérie. Sa mère est au foyer. Sa mère est originaire de Sète, dans l'Hérault, et son père est un Espagnol, minorquin. Ils se sont donc posés à Alger après plusieurs déconvenues et ils ont.
Donc là,
Il est né en 1904, le 24 voilà. décembre 1904. On est vraiment au tout début du XXe siècle l'Algérie colonisée.
L'Algérie française, ouais.
Et Villaplane, à 12 ans, il montre de très bonnes dispositions pour le football. On l'inscrit dans un club local qui s'appelle le SC Gallia, où il commence à faire des petits championnats locaux. Il se fait remarquer, il va rencontrer d'autres personnes qu'il croisera sous le maillot bleu d'ailleurs. Et à 16 ans, comme vraiment il est prometteur, on le décide de l'envoyer à Sète, en métropole. Sète, c'est le seul club vraiment un peu
qui se distingue à l'époque. Pro à l'époque.
Voilà, c'est un des premiers clubs. Alors c'est pas le pro, on est dans l'amateurisme marron, comme on dit, c'est-à-dire que ce sont des amateurs, mais qu'on rémunère un peu sous le manteau, hein, on va dire ça. Alors il arrive à 16 ans en 1921, il est en minime, et il est tellement bon qu'au bout de quelques mois, il passe en équipe première, en milieu défensif, et c'est là que sa carrière commence. Elle est lancée par son entraîneur qui est écossais, qui s'appelle Victor Gibson. Voilà, pour les premiers pas dans le football.
Bon, là on parle que de foot, donc là le talent, il développe son jeu, tout ça. Il n'y a pas du tout de signe avant-coureur d'un je sais pas, d'un.
Il n'y a pas de politique dans sa vie.
Voilà, d'un investissement.
Non, il n'y a pas de politique dans sa vie. Il y a quand même les femmes. C'est bien, les sorties, l'alcool, la fête.
C'est un fêtard.
Et l'argent, c'est un vrai fêtard. C'est un vrai fêtard. Quand il n'est pas sur les terrains, il est dans les cafés.
En quelle année là, quand tu commences?
Alors là, on est aux alentours de 1921-1923.
Ah oui, là on est vraiment au début, donc il a pas de, je sais pas si on disait ça à l'époque, mais de gloire footballistique encore à ce moment-là.
On peut dire que c'est le Neymar des années 20.
C'est un espoir, quoi.
C'est vraiment un espoir. Il va quand même, c'est un simple espoir parce que Sète en 1923 va aller jusqu'en finale de la Coupe de France qu'elle va perdre contre le Red Star, et on lui fait pas assez confiance quand même pour l'aligner en demi-finale et en finale. C'est-à-dire que Sète a quand même des bons effectifs. Il est un peu jeune, un peu tendre, donc on n'aligne pas. Ça va lui causer un certain nombre de, il va être déçu. Il va partir dans un petit club qui s'appelle Vergès, juste à côté, qui lui propose une petite rémunération sous le manteau de représentant avec aussi une place de représentant de commerce pour une entreprise qui fait de l'eau gazeuse en petites bouteilles vertes.
Il va beaucoup changer de club. Hein.
Il change beaucoup de club.
Pas si à l'époque ça se faisait beaucoup, mais il fait Nîmes, il va au Racing, à Antibes, à Nice, il se balade beaucoup quand même.
Il va où est l'argent ?
D'accord.
Bah oui, l'argent, il a tout de suite compris quel était son intérêt. C'est ça qui va le perdre plus tard. Donc il va à Vergès. Ensuite, il part au service militaire pendant un an et demi à l'époque. C'est 18 mois à l'époque. Ce qui est très intéressant dans son parcours, c'est qu'on voit que c'est l'un des premiers footballeurs qui est vraiment athlétique. C'est-à-dire que pendant le service militaire, il fait énormément de natation, d'athlétisme, il remporte des championnats militaires régionaux. C'est un joueur de petit gabarit, tout juste 1m66, pas d'épaule, d'énormes cuisses, un joueur sur le terrain qui se déplace énormément.
Alain Giresse, quoi.
Ouais, moi je pensais aussi.
Visiblement pas assez technique.
Il est technique. Alors Villaplane est technique. On le crédite de l'invention de la tête plongeante.
Ah ouais.
Pour un petit gabarit.
Bah, justement, il pouvait pas prendre en hauteur, donc tête plongeante.
Il était plus producteur.
Il attendait que ça retombe.
Voilà. Ça fait sa notoriété. Sa notoriété le suit. Donc il part au service militaire. Il revient à Sète parce que quand même, il s'aperçoit que Sète réussit à arriver deux fois en finale du championnat de France, de Coupe de France, pardon. On le récupère parce qu'il est
talentueux. C'est avec Sète qui va connaître l'équipe de France.
C'est avec Sète qui va connaître l'équipe de France, effectivement, parce que c'est pas de Vergès qu'il en serait venu.
Il y reste quoi, 4 ans.
Il va y rester jusqu'en 1927. En 1927, c'est une mauvaise année pour lui, année de blessure. Donc il est sur le banc.
Non, moi je parlais de l'équipe de France.
Ah, l'équipe de France. Alors, l'équipe de France, premier match, 11 avril 1926. Contre les Anglais. Il a fait quelques matchs en équipe de France militaire avant, ça s'est bien passé.
Il reste international français.
Ouais, il reste international globalement, sauf 1927-1928, qui sont les années de blessure. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est un petit peu mis sur le côté à 7 et dans l'équipe de France. Et qui va partir essayer de se relancer un petit peu au Sporting Club de Nîmes, voisin. L'équipe de France ne l'oublie pas parce que dès 1928, on le resélectionne de nouveau. Il va faire les Jeux Olympiques d'Amsterdam en 1928. Élimination quasiment immédiate, hein, dès le premier match, 4-3 contre l'Italie.
Mais le côté noir de sa personne intervient après le foot. Parce qu'en fait, ce qui se passe de sombre dans sa vie, le côté ordure, machin, vu qu'il arrête l'équipe de France en 1930, ça vient plutôt après 1930. C'est après sa carrière en bleu qui devient une ordure, le grand banditisme et ce qu'il fait pendant la guerre. Quoi.
Ouais, après 1930, il chute. C'est-à-dire le sommet de sa carrière, c'est la Coupe du Monde en Uruguay. Là, c'est vraiment son.
Est-ce qu'on peut dire que c'est son prime?
On peut dire ça. Il a dit après le premier match contre le, après son deuxième match pardon,
vrai,
contre l'Argentine.
Il y a en Uruguay.
Ouais, il dit.
C'est le plus beau jour de ma vie.
Ils y vont en bateau. Ça dure 15 jours.
Donc il est dans l'équipe de machin, de Lucien Laurent.
Dans l'équipe de Lucien Laurent. Il est capitaine.
Comment il faisait pour s'entraîner sur le bateau?
C'est très simple. Il y avait trois équipes sur le bateau. Il y avait la Roumanie, il y avait la Belgique et il y avait la France. Alors les Roumains, les Belges, c'est sérieux, c'est les agrès, la gymnastique, etc. Les Français, c'est course, saut de haie sur les fauteuils en rotin sur le pont, il y a des photos, les grandes siestes sur le pont également, et c'est pas les plus sérieux, hein, les photos là-dessus.
Déjà, donc il est le capitaine de l'équipe de France à la première Coupe du Monde.
Il est le premier buteur, Lucien Laurent, qui est le premier buteur de l'histoire de la Coupe du Monde.
Villaplaine, il a quelque chose pour lui, c'est-à-dire qu'il correspond à une époque, c'est les 1928-1929, on passe de l'idée du capitaine de l'équipe, qui est un peu le général, le mec à poigne, on le remplace par quelqu'un, le capitaine doit être quelqu'un qui a du charisme, qui est exemplaire sur le terrain. Et Villaplaine, il va avoir plein de défauts par la suite, c'est un très bon camarade, il est exemplaire, il donne tout, et il met de la bonne ambiance.
Pendant qu'il est dans le foot, là, l'équipe de France, machin, entre 26 et 30, il n'y a pas des prémices, il vole pas une montre, pas de petit larcin et tout, c'est comme après on va arriver à ce qu'il devient grand banditisme et compagnie, Paris truqué, là il est nickel jusque là.
Sur le terrain il est un peu chaud, c'est-à-dire qu'il n'est pas le dernier à distribuer les coups, ouais. qui sont pas très sanctionnés d'ailleurs.
Oui, à l'époque on sait, pendant des années.
Dehors, s'il commence, alors sa prédilection c'est les champs de course. Et les cafés.
C'est ça, les canassons.
Les jeux d'argent. Voilà, les canassons, jeux d'argent.
Il trempe dans des paris truqués même.
Exactement. Et les paris truqués, il va se faire rattraper après 1930. Avant, il est dedans, mais je pense que c'est un peu de l'artisanat, quoi. Ça reste gentil avant 1930.
Alors, à ce stade du récit, maintenant qu'on a posé le zozo, qu'on en retient que c'est un fêtard.
À ce stade du récit, comment tu t'es intéressé à ce mec-là?
Ah, c'est très simple.
J'ai pas entendu parler d'Alexandre Villaplaine.
Moi, j'ai lu un bouquin qui s'appelle Portrait de collabo de Laurent Joly, qui est un très beau livre à illustrer. Il y avait 13 portraits de collabo comme ça. Alors, on voit des vrais gangsters avec les trognes qui vont bien. On voit des hauts fonctionnaires en cravate qui vont déporter des centaines de milliers de juifs. Et au milieu, on voit une belle gueule en plus. C'est une très belle photo. Et le type capitaine de l'équipe de France de football. Là, je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas.
Bien sûr, c'est
donc
incroyable.
J'ai décidé d'aller enquêter là-dessus, de chercher.
T'as tout cherché dans la vie de ce mec-là.
Je pense que j'ai cherché à peu près tout ce qui était possible de chercher.
Ouais. C'est fou.
La presse, les pièces judiciaires après.
Parce qu'il y avait des choses dans la presse à l'époque sur lui. Quand il trempe dans les paris truqués, ça fait. Comme il a été capitaine des Bleus, j'imagine que c'est une vedette, donc on en parle dans les médias.
À partir de 1928-1929, c'est l'homme qui monte. Donc on commence à avoir des portraits de lui dans la presse, presse nationale même. Hein. 1930, c'est l'apothéose. Il revient, c'est très simple. Il revient de la coupe du monde en Uruguay, à Villefranche-sur-Mer. Trois jours après, il est l'invité d'honneur des fêtes. Vous savez, à Sète, là, les joutes nautiques.
Ah, oui.
Il y a 10 000 personnes sur le bord du cadre royal et il dispute la joute d'honneur contre le capitaine du FC Sète, qui était également son coéquipier sous le maillot bleu. Donc, à ce moment-là, c'est une star.
Alors. Restons sur la star, petite pause fraîcheur, et après on va voir comment il est tombé largement de son piédestal. A tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Et oui, encore un quart d'heure ensemble pour vous raconter la suite de cette histoire incroyable, celle d'Alexandre Villaplane, capitaine des Bleus et officier nazi. Donc le livre de Luc Briand qui est avec nous s'appelle Le Brassard aux éditions Plein Jour. Daniel Riolo est là, Kevin Diaz est là, je salue notre ami Jacques Monclar qui me signale cassette. Ce sont les fêtes de la Saint-Louis, les joutes de Sète. Loulou Nicolas était président des joutes. Voilà.
Et moi je salue tout simplement Jacques Monclar.
Exactement, qui nous manque. Pourrait passer nous voir un de ces quatre. Alors Luc, on en est là au sommet de la carrière de Villaplane. Qu'est-ce qui se passe ensuite ?
Alors ce qui se passe, c'est qu'au sommet de sa carrière, il a été recruté par le Racing Club de France, par un homme qui s'appelle Jean-Bernard Lévy, qui a réussi dans l'immobilier et qui veut faire passer le Racing Club de France dans une autre dimension. Donc à l'année 1929, juste avant la Coupe du Monde, il monte à Paris.
C'est souvent arrivé avec le Racing ça.
Oui. Et il monte à Paris et c'est là qu'il va se perdre en fait. C'est là que vraiment il passe
Il y en a tellement. Ils sont perdus à Paris.
Il passe dans une autre catégorie des mauvaises affaires avec les bars de Pigalle, les champs de course d'Anguin et autres.
Et il est lié au grand banditisme. Hein.
Petit moyen banditisme, on va dire. Ouais, il connaît quand même des gars dans le milieu.
Alors, je suis désolé, mais je suis pas assez fort pour connaître la différence entre le moyen banditisme et le grand banditisme. J'imagine c'est le degré.
On va dire moyen banditisme. Il connaît des souteneurs, ce qu'on appelle les souteneurs, les Julio Cascroute, les proxénètes, de Barbès et autres, des gars qui trempent dans les courses, dans les paris truqués, les courses truquées, etc. On n'est pas dans les braquages, on n'est pas dans le grand.
Il n'est pas dans la grosse pègre.
Non,
moyen banditisme. Quand même,
moyen
banditisme.
Voilà. Bonac, là, il sort, il est à Paris, voilà, il joue quand même au foot.
Il joue au foot de temps en temps, ça commence à influer sur son comportement, c'est-à-dire qu'il sort, il boit, il va disputer des matchs avec des petites équipes. Or, il a été recruté par Jean-Bernard Lévy, qui pour lui, lui a quand même attribué un café, une superbe affaire, un café à Levallois-Perret à exploiter, parce qu'on est toujours au temps de l'amateurisme marron. Donc,
il est joueur de foot, mais il a un bistrot à tenir.
Il a un bistrot à tenir quand même.
Et avant Valcani, je précise. Hein.
Voilà. Le problème, c'est qu'effectivement, Lévy veut en avoir quand même pour l'argent qu'il a placé dans Villaplane. Et l'autre commence à ne plus donner satisfaction. Sur le terrain, il devient souvent un petit peu plus agressif. Il commence à manquer les entraînements. Donc, à la suite d'une altercation avec un autre joueur pour lequel il est suspendu, Jean-Bernard Lévy décide finalement de le renvoyer très sèchement. C'était après un match amical contre
Arsenal. Et il retourne dans le sud, Antibes.
Et il va retourner, d'abord, c'est là qu'il commence à se perdre. Il va retourner à Nîmes pendant 6 mois. 6 mois après, on perd sa trace et il réapparaît miraculeusement à Antibes. Alors Antibes a voulu le recruter parce que ça reste quand même un joueur de valeur. Mmh. Et puis on est en 1931, à partir de 1932, c'est le championnat professionnel.
Ah, oui.
Et Antibes veut se muscler vraiment pour le championnat professionnel. Il a recruté d'autres joueurs de l'équipe de France. Et c'est là qu'à Antibes, évidemment, ça va empirer parce que qu'est-ce qu'on lui donne comme métier fictif pour être footballeur, croupier de casino. Casino de Juan Lépin.
Ah ouais, là, forcément.
Ah ouais, mais bon.
Ça aide pas, ça.
Tenir un bar, être croupier au casino, c'est quoi, l'autre videur en discothèque, c'est quoi, les mecs?
Je crois que l'info n'était pas passée, en tout cas, entre le Racing Club de France et Antibes. Et donc, évidemment, bon, voilà, on va avoir sa première affaire assez amusante, c'est-à-dire qu'il joue à la loterie espagnole qui est interdite en France. Il gagne avec deux autres de ses compères, dont un joueur d'Antibes. Comme par hasard, le billet va être volé. On ne saura pas qui c'est, mais on pense bien que c'était lui. Il va se retrouver en détention préventive pendant un mois. Il sera jugé, relaxé au bénéfice du doute. Mais là, il commence vraiment à sentir sérieusement le soufre. Antibes le vire. Il est recruté par l'OGC Nice. Et là, l'OGC Nice, c'est vraiment la fin. C'est-à-dire que plutôt bien accueilli au début, mais il n'a plus du tout la tête au football. Il est complètement dans les jeux. Il sèche les entraînements. Il est mis à l'amende. Et au bout de quelques mois seulement,
C'est
le jeu.
Mais c'est pas encore une ordure.
Ah, pas du tout.
C'est pas encore un mec qui est capable de tuer.
Ah non.
On n'en est pas parce que là, on est en 35.
34, ouais.
On est en 34, 35. 5 ans après, la guerre va démarrer. Et quand on voit, parce que lui, au début de la guerre, on peut pas dire qu'il y a beaucoup de réflexion chez lui, hein.
Non, il y a pas
En deux secondes, c'est bouclé, hein, de quel côté il va, quoi.
Ça va vite.
On peut pas dire qu'il soit, à se demander, je vais soutenir la France ou quoi, qu'est-ce. On a le sentiment que c'est vite perdu pour lui.
Alors lui, il s'en fout, la montée vers la guerre, il la voit sans doute venir, mais il s'en fiche. Un petit détail assez amusant, il est pas du tout antisémite. En 1938, pour essayer de se relancer, il va dans une équipe communautaire juive, l'AS Bene Misra. Il s'y fait des vrais bons amis. Donc, on voit pas comment.
Et donc, à ce moment-là, 2 ans après, il est déjà dans le racket des Juifs.
Et ouais, 2 ans après, il est là. C'est assez incroyable. Alors, ce qui s'est passé.
Mais il y a un choc psychologique chez lui, il y a un truc.
Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un trafic qui a mal tourné. Il va se retrouver un peu dans la main de la Gestapo française. Alors, la Gestapo française, elle se constitue après la défaite de 1940. Il y a un homme qui va constituer ça. Il s'appelle Henri Lafont. C'est un gamin des rues, qui traîne dans le quartier des Halles, qui a
La guerre est terminée parce que la France a perdu.
Voilà, c'est ça.
Donc on est en 40.
On est en 40. Il se passe pas grand chose entre 34 et 40.
Hein, mais s'il était dans le sud, il avait la possibilité d'être en zone libre et finalement il va à Paris.
Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il a été mobilisé, il a fait la bataille de France, okay. Il a été fait prisonnier par les Allemands du côté de Dijon. Donc là, il est en zone occupée et il s'est enfui. Il a vite retrouvé Paris et il va monter un trafic de faux or. Il va essayer de rouler les Allemands avec 2-3 autres personnes. Malheureusement, dans ces 2-3 autres personnes, il y avait un type qui travaille pour Henri Lafont. Et la colère des Allemands va se retourner contre Lafont et sa bande. Alors Lafont, je reviens dessus, c'est donc le gamin des rues, un type très intelligent, très dangereux. Qui a le choix, soit il liquide Villaplane, qui a essayé de rouler les Allemands et qui l'a mis lui dans la panade, soit il se dit que quand même un type qui est capable de faire ça, essayer de refourguer 25 kilos d'or aux Allemands, ça le rend intéressant. Et qu'il vaut mieux qu'il travaille pour lui.
On va l'embaucher finalement.
Et il l'embauche. Alors évidemment, il l'embauche, mais avec les petites conditions. Il dit, t'as essayé de me rouler, bah maintenant tu vas travailler pour moi. L'autre est quand même un petit peu tenu. Et donc, il va se lancer dans le trafic d'or en proposant notamment aux personnes qui veulent vendre de l'or au marché noir parce qu'ils ont faim, hein, ou alors parce que s'ils sont juifs et qu'ils veulent financer une cavale.
En fait, c'est plus qu'un collabo, c'est un truand.
C'est un truand, c'est un escroc.
Il bosse pour des mecs qui effectivement vont collaborer. Ouais. Il est.
Parle des gars de la rue Lauriston, c'était des truands.
Là, c'était des truands.
Avant de devenir des. Comment dirais-je.
Ils sont pas vraiment dans l'idéologie. Ils sont dans le racket. Ils sont prêts à buter des gens.
C'est ça.
C'est juste. Ils veulent du blé, quoi. Ils font du racket d'or, ils font du trafic.
La politique, ça les intéresse pas du tout au début. Sauf qu'il y a quelque chose qui change en 1943. À partir du début 1943, c'est d'abord que, la zone libre est occupée. Donc les Allemands font ce qu'ils veulent partout en France. Ils n'ont plus besoin du milieu pour se cacher, pour faire des choses. Deuxième chose, les Allemands ont perdu à Stalingrad. Et là maintenant c'est la guerre totale. Donc c'est vous êtes avec nous, vous êtes contre nous. Et vous faites ce qu'on veut, nous. Et puis il y a quelque chose qui se passe dans la tête de Lafont. C'est il devient complètement mégalo. Veut monter sa troupe lui-même. Une sorte d'armée privée. Une sorte
de Gestapo à la
française.
Voilà,
une sorte d'armée qui irait combattre en Afrique du Nord pour la reprendre aux Anglo-Saxons qui ont débarqué là-bas. Et il va imposer à tous ces hommes, dont Villaplane, de diriger des groupes d'hommes, alors originaires du Maghreb, qui va recruter dans les bas-fonds de Paris, à la Goutte d'Or, etc. Et il forme une troupe comme ça de 400 personnes et il leur dit maintenant, vous allez travailler pour les Allemands, vous allez travailler pour nous. Et les Français, dont Villaplane, il y a 5 Français comme ça, qui vont être nommés officiers, chefs de section, qui vont devoir devenir Allemands. Et Villaplane va prendre la nationalité allemande.
Il devient Allemand.
Oui. Il prête serment au Führer, serment à la personne du Führer. Il devient sous-lieutenant dans la SS. Et le 11 mars 1944, avec ses hommes, il part dans le Périgord, à Périgueux, où on signale des activités de résistants pour remettre de l'ordre. Et c'est là que les massacres vont commencer. Alors les massacres, on lui donne d'abord la sale besogne, c'est-à-dire qu'il va, le 25 mars, il y a 2 officiers allemands qui sont tués par la résistance à Brantôme. Et on dit à Villaplane, vous allez fusiller 25 personnes en représailles. Et il les fusille à Brantôme. Parmi les victimes, il y a notamment quelqu'un qui s'appelle Georges Dumas, qui était le père du futur homme politique et avocat Roland Dumas. Voilà. Et ensuite, alors après...
Et dans tes recherches, t'as essayé de plus avoir grand monde de vivants, mais t'as essayé de retrouver des gens qui ont eu affaire à ce mec-là?
Alors, d'abord, j'ai eu accès aux archives judiciaires des procès, de tout ce qui s'est fait, qui sont détenus dans les cartons de la préfecture de police à Paris. Et puis ensuite, j'ai essayé de retrouver des personnes qui avaient trouvé Villaplane, qui l'avaient vu. Et j'ai retrouvé comme ça un jeune homme qui s'appelait Jean-Jacques. Il avait 13 ans à l'époque. Il a été tenu en joue par la mitraillette de Villaplane. Je l'ai interrogé.
Et Villaplane n'a pas pu le buter?
On ne sait pas ce qui s'est passé vraiment. Il a changé d'avis. Ça lui arrivait parfois. Il a eu la vie sauve. Il est allé commettre des massacres ailleurs, dans une autre maison, dans une autre ville. Et le petit gamin de 13 ans,
il avait
13 ans à l'époque, 89 ans en 2021 quand je l'ai interviewé, et il se souvenait de ses souvenirs très très marquants.
Incroyable.
Donc
il devient assassin, il tue des enfants.
Alors plutôt les adultes, les enfants il a laissé la vie sauve à certains, mais quand il y avait des femmes enceintes, ça le gênait pas de mitrailler.
Capitaine de l'équipe de France quand même.
Capitaine de l'équipe de France.
Devenu allemand. Et alors comment ça se termine cette histoire?
Alors ça se termine, c'est qu'il est dans le sud-est, toujours dans le sud-ouest, pardon, dans le Périgord. 6 juin, le débarquement arrive. Là, il se rend compte que ça va être intenable.
Il n'a pas choisi le bon côté.
Du coup, il redevient français.
Et non, il ne revient pas français. Il remonte très rapidement à Paris pour essayer de commencer à préparer sa fuite, sa cavale. Le reste de la Gestapo française s'est déjà enfui. Et lui, excès de confiance sans doute, il veut essayer de récupérer un bijou, de l'argent ou quelque chose. Il va dans le bar d'un ami. Et le 24 août, il se fait attraper par la police judiciaire juste en sortant du bar. Et il est envoyé à Drancy.
Le 24 août.
Le 24 août 1944. Ce sont les jours de la libération de Paris. C'est vraiment la grande confusion. Excès de confiance.
Un anniversaire, donc aujourd'hui.
Eh oui.
Oui.
Ah ben, je ne l'avais pas vu.
Nous sommes le 24 août.
Ben, voilà. C'est vrai. Donc il le chope le 24 août.
Il l'attrape le 24 août. L'instruction va être menée très très vite.
Mais à l'époque, ces mecs-là, ils étaient fusillés, non?
Après procès, quand même.
Oui, après procès, mais ils finissaient comme ça.
Eh ben, on va voir. Il est jugé.
il a fini comme ça, oui.
Voilà. Instruction qui commence le 6-7 septembre. Il va être interrogé plusieurs fois. Et condamné à mort le 1er décembre, tous les pourvois, les grâces sont rejetés. Le 27 décembre 1944, au matin, on les amène, on les met dans un fourgon, on les conduit au fort de Montrouge, dans les fossés, et il est fusillé avec les autres membres de la Gestapo française à 10h du matin.
Il y a cette anecdote quand même de ce que lui dit...
Son chef, Henri Lafont, qui... Alors ils ont appris qu'ils allaient être exécutés, hein, parce que la presse a annoncé l'exécution le matin, eux le savaient sans doute depuis la veille, parce que les matons leur ont dit. Et Henri Lafont, son chef, lui dit « Là, ce pénalty-là, tu ne pourras pas l'arrêter, alors pas la peine de plonger. »
Bien. L'autre, il ne savait même pas qu'il n'était pas gardien.
Oui. Quelle histoire. Alors, comment réagit le monde du foot après-guerre? Le monde du foot le connaissait. Et donc après, on a découvert la suite du parcours.
Ouais, il y a quand même une cassure avec la guerre, c'est-à-dire que toute l'équipe de France a été dispersée pendant 5 ans dans les clubs. Alors il y a ceux qui étaient en camp de prisonniers, il y en a un, Étienne Matler, qui va devenir un grand résistant, vraiment à l'opposé complet
de Villaplane.
Voilà, joueur de Sochaux. D'autres vont se replier, doivent devenir entraîneurs dans les petits groupes, dans les petites équipes de la zone libre. Donc en fait, l'équipe de France, il n'y en a plus, et le souvenir de l'équipe de France, de Villaplane, il se perd. Il demeure quand même assez vivace du côté de Sète, parce qu'il y a sa famille à Sète encore, la famille Villaplane.
Et l'équipe de France, ça se reforme en quelle année, du coup, derrière?
Alors le premier match de l'équipe de France, il va commencer dès le 24 décembre 1944.
Contre la Belgique, hein, c'est
contre la Belgique.
Okay. Il n'y en a aucun qui va intégrer l'équipe de Pelé et Stallone dans Nous la Victoire là.
J'imagine qu'il a encore des descendants aujourd'hui.
Il avait un fils qui est mort en 1978. J'ai pas trouvé d'autres descendants. Il avait aussi une fille qui est morte à Marseille en 2006. C'est pas si vieux.
Ah ouais. Il n'y avait pas de descendance connue.
Elle a peut-être eu des enfants, mais j'ai pas réussi à le voir. Et évidemment, vous savez, dans ces familles-là, les familles de collabos, c'est
mon grand-père était collabo.
Quelle histoire.
Et alors, j'ai jamais entendu mon grand-père est collabo.
En France, c'est vrai que bon, quand on parle des anciens grands joueurs, bon ben voilà, j'ai l'impression qu'en fait, cet homme-là, le monde du foot, enfin en tout cas même la Fédé. L'a un peu effacé des tablettes en fait.
Je peux vous dire que moi j'ai écrit à la Fédé, j'ai jamais eu de réponse. Hein.
Ouais, mais ça, même si c'était pas un autre sujet, t'aurais pas eu de réponse.
Ouais, il a été complètement effacé.
Non, mais ça, dans l'histoire, ça fait partie de l'histoire. Bon, voilà, l'histoire, on l'assume, ça fait partie de l'histoire de l'équipe de France. Voilà. Ouais. Et là, finalement, tu rétablis un peu tout ça. Donc, merci d'être venu dans l'after, c'est passionnant.
Merci beaucoup.
Et donc, si vous voulez vraiment avoir le détail complet de cette histoire, vous achetez le livre, Le Brassard, de Luc Briand aux éditions Plein Jour. Voilà. Merci Hugues.
Merci d'être venu.
Merci beaucoup. C'était passionnant. Et nous, l'after, on revient demain avec le match Nice-Maccabi, bien sûr, et le tirage au sort de la Ligue des Champions. Bonne nuit à tous.
RMC, l'after foot.